Alice, je vous laisse nous présenter votre invité.
Je suis ravie d'être en ligne ce matin avec David Onona, qui est réserviste dans Tsahal. Bonjour David.
Shalom aux auditeurs, bonjour à vous.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors David, exceptionnellement là, vous avez une permission, vous n'êtes pas sur le terrain, vous sortez à peine de Gaza hier.
Exact, tout à fait.
Racontez-nous un peu comment ça se passe sur le terrain pour votre unité et pour les hommes que vous côtoyez.
Et comment ça se passe sur le terrain? Écoutez, moi j'encadre des jeunes soldats, je suis un officier un peu d'âge mûr. Et je peux vous parler des soldats, parce que c'est, je pense, le plus intéressant. Et on a toute la jeunesse d'Israël qui est là, des gens de Tel Aviv, des gens qui habitent en Judée-Samarie, des gens de Jérusalem, des gens d'Elat, des gens de la périphérie, et des étudiants. Tout le monde s'est mobilisé, donc en Milouim, tout le monde est conscient des enjeux. Et les conditions de terrain sont... Donc la première chose, c'est rendre hommage aux soldats, aux jeunes soldats. Et on en perd régulièrement. Bien évidemment, j'imagine que le public suit cela. On a des blessés. Et les conditions de terrain sont des conditions extrêmement compliquées, parce qu'on est non seulement dans des combats urbains, avec une forte densité de bâtiments, mais surtout on est confronté à une infrastructure terroriste sous la terre, qui fait qu'on a des pièges partout. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de métro souterrain, avec des puits qui sortent à l'extérieur. Les terroristes du Hamas sont dans ces puits. Ce sont des centaines de kilomètres, des dizaines de kilomètres. Et parfois, ça descend à 70 mètres de profondeur, 30 mètres de profondeur. Parfois, les bâtiments sont écroulés par-dessus et ils arrivent à trouver une brèche, à creuser un puits de sortie. Donc, ils sortent avec une équipe, avec une personne qui fait le guet et deux personnes qui tirent sur les tanks ou sur l'infanterie. Donc, des conditions extrêmement compliquées. Ajoutez à cela qu'on a encore plus de 130 otages. Une partie sont décédés, mais les corps sont détenus par le Hamas. Et donc, tout ça est très long. Tsahal procède de manière systématique, extrêmement réfléchie, très méthodique. Et donc, ça prend énormément de temps parce que, bien sûr, on ne se rue pas à l'avant. Le plus important pour nous, c'est sauvegarder la vie de nos soldats tout en essayant d'atteindre les objectifs fixés par l'état-major. Vous savez qu'il y a trois objectifs. Le premier, c'est détruire l'infrastructure du Hamas. Et donc, ça prendra encore beaucoup de temps. Et deuxièmement, c'est détruire les forces actives du Hamas, donc les terroristes et les dirigeants. Et ce à quoi nous nous employons avec des résultats très très importants jusqu'à maintenant. Et le troisième objectif fixé par le pouvoir politique, par le gouvernement et le cabinet de guerre, c'est de ramener l'ensemble des personnes qui ont été kidnappées à la maison. Et donc tant que ces trois objectifs ne sont pas atteints, eh bien, on s'adapte au terrain et on combat. C'est la première fois qu'une armée moderne entre guillemets combat dans ces conditions depuis aussi longtemps. Et je peux vous dire que le travail est fait, par contre il est lent, sinon on aurait énormément de pertes supplémentaires.
Alors oui, et ça on en parle à l'antenne tous les jours, mais ça doit être difficile aussi pour vous en dehors du sens du devoir, David, parce que en fait, comme beaucoup de réservistes, vous avez une femme, des enfants et un vrai travail et que vous ne pouvez rien faire de tout ça, ni être chez vous, ni vous occuper de la Fondation Mémorise, ni être guide en Israël comme vous l'êtes aussi habituellement.
Exact.
Comment vous, vous vivez ça?
Vous abordez une question qui est complexe. D'abord, je crois qu'il y a extrêmement peu de réservistes en Israël, ce que parmi... les décisions des années passées, on a réduit le format de l'armée en considérant qu'on n'aurait pas un combat de ce type-là aussi long à gérer. Et donc, on a réduit le nombre de réservistes, on a réduit leur entraînement, on a réduit leurs moyens, leurs capacités, au profit, vous le savez, de moyens technologiques, de sous-marins, d'avions de combat. Et on est confronté donc à quelque chose d'extraordinaire qui est la mobilisation de ces réservistes, jeunes et moins jeunes, qui sont là et qui protègent Israël à la fois de manière défensive et à la fois en attaquant sur le terrain et en réalisant les objectifs. Ces réservistes, ils lèchent chez eux, c'est mon cas effectivement, mais je suis un exemple parmi d'autres. Leurs épouses, leurs enfants, et pour ce qui me concerne même mes petits-enfants, parce que j'ai trois petits-enfants. J'ai mon fils Ilan qui est aussi réserviste, mes deux gendres également. Et donc, il n'y a pas d'hommes dans la maison, on est tous les quatre au front, en se battant. Ce qui veut dire que les étudiants ben, n'étudient pas. Les gens qui ont des petites entreprises, ben, il n'y a personne qui dirige et puis il n'y a pas. Il n'y a personne qui gère ces entreprises. Moi, par exemple, je dirais, j'ai une fondation, ben, il n'y a pas de programme. Je ne peux pas guider en Pologne ou guider en Israël. Puis, de toute façon, il n'y a pas de touristes pendant cette période. Donc, il y a effectivement des difficultés économiques. La vraie difficulté, elle est que les soldats clivent les choses. C'est-à-dire que dans nos têtes, quand on est dans Gaza ou dans le nord, parce qu'il ne faut pas oublier les soldats, j'étais 2 mois dans le nord à la frontière du Liban, avant de descendre en renfort dans le sud à Gaza. Et les soldats coupent les choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à ces soucis-là. Et donc on pense à nos camarades de combat, à nos frères d'armes, on est ensemble et on se bat. Et on sait bien qu'on a ces difficultés. Celles qui encaissent ce choc, ce sont les femmes israéliennes qui sont extraordinaires, qui ont toute la gestion de la maison seule, la gestion des enfants seule, plus les difficultés économiques à affronter. Tout ça amènera, je l'espère, Israël à reconsidérer. Il y a déjà des efforts qui sont faits par l'armée et par l'État pour améliorer le statut des réservistes, déjà en ce moment, avec des bourses, avec un certain nombre de choses qui vont normalement améliorer la situation, mais la situation est compliquée, c'est une guerre. On avait un peu oublié en Israël ce qu'est une guerre aussi totale que celle-là. Et il faudra que demain que la société se mobilise pour à la fois augmenter ses ressources de Milouim, les entraîner mieux, d'autant qu'on va avoir besoin d'eux, parce que ça va durer longtemps. À la frontière nord, le Hezbollah est toujours avec son équipement de mort intact. Il tire sur Israël, il y a une intensité même des tirs avec une petite escalade, même si pour le moment, on n'a pas le sentiment qu'on va vers quelque chose de global, mais on a une difficulté, c'est qu'on a plus de 150 000 Israéliens qui ont quitté leur foyer, qui eux aussi souffrent. Donc on est un pays en guerre, donc les Milouim souffrent, les réservistes souffrent, l'arrière souffre également. J'imagine que vous avez déjà eu pas mal de gens qui témoignent. Moi, je voudrais aussi insister sur la solidarité israélienne, c'est-à-dire sur l'arrière. C'est assez extraordinaire de sentir cette chaleur, cette unité. On a souffert beaucoup l'année dernière de divisions énormes. Et tout ça a été comme gommé par le combat. Et on parle énormément, vous savez qu'on a dans une période des temps morts et des temps de repos. Et on parle dans toutes les composantes de la société israélienne, de nos difficultés économiques, de nos foyers, de nos enfants. On a quand même des soldats dont le mariage a été repoussé, d'autres sont mariés au front. Certains, comme mon fils par exemple, n'assistent pas à la grossesse de leur femme. Hein. 3 mois de guerre, c'est 3 mois critiques dans une grossesse. Certains ne voient pas la naissance de leurs enfants ou ils sortent 24 heures pour revenir ensuite. Donc il y a un coût de la société israélienne très important. Je crois que quand on est à Bruxelles, quand on est à Paris, quand on est aux États-Unis, ce qui compte, c'est manifester sa solidarité, hein, à la fois sur les réseaux, à la fois en venant en Israël. Il y a beaucoup de gens qui viennent être volontaires pour aider dans l'agriculture, c'est ce qu'il faut faire. Et demain, il faudra aider aussi l'économie israélienne à se redresser. Il faudra venir dans le pays, voyager et faire tourner la machine économique.
On en parle souvent, mais vous aviez raison de le rappeler, David Onona. Ma dernière question, ce serait, est-ce que vous sentez qu'on est bientôt sur la phase 3 de cette guerre, c'est-à-dire que ça va durer peut-être entre 3 et 9 mois au minimum, avec moindre intensité et peut-être plus de turnover en fait entre les soldats et les réservistes?
Bien, c'est pas un secret, mais dans les actuels des choses, on a déjà des dates ont été annoncées aux soldats de libération pour qu'ils puissent reprendre un cycle d'études, même s'il va être raccourci. Pour ce qui est des jeunes, il faut renvoyer les hommes à la machine économique. Donc tout ça aussi, c'est quelque chose qui est prévu. Et on est déjà au courant qu'on dans 3 mois, dans 4 mois, on reviendra et on devra effectivement remplacer à tour de rôle et continuer le travail sur le terrain, ce qui présente d'autres difficultés parce que là, pour le moment on est 100% dans le travail de terrain et c'est vrai que sortir à nouveau dans nos foyers c'est toujours très compliqué, le retour à la vie normale n'est pas simple, il faut se réhabituer, retrouver des repères, remettre une machine économique en route pour peut-être repartir ensuite un mois à nouveau, tenir ce qu'on appelle un cage, une ligne de feu ou une attaque ou en défense. Et tout ça, c'est aussi des enjeux importants. On a l'expérience de la guerre du Kippour, mais bon, ça date de 73. Bon, pour vos auditeurs, ça paraît sûrement très loin, d'une année et demie de gens qui étaient en Milouim constamment. Donc ça veut dire qu'Israël aura besoin d'énormément de soutien. Vous savez aussi la pression internationale, vous savez aussi les faux procès qui sont faits à Israël. Et donc tout ça, c'est complexe. mais il y aura vraiment besoin de soutien économique à long terme. Je sais que les gens se sont mobilisés partout hein, pour aider les soldats, aider Israël. Mais il faudra aussi que la diaspora comprenne que c'est au long souffle et pas, c'est pas terminé. Rien n'est terminé. Rien n'est fini. Moi, j'étais à Khan Younes, on progresse petit à petit, immeuble par immeuble, et on fait le travail de manière extraordinaire. Je peux vous dire, on a une jeunesse dont on peut être très fier. Et on a beaucoup discuté, on parle beaucoup de la jeunesse, vous savez, moi, mon métier, c'est l'éducation. Une jeunesse qui était beaucoup sur son iPhone, iPad, aïe, 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 moi, et finalement, ils sont capables de se donner, ils se révèlent extraordinaires de compassion, d'intelligence, d'humanité, des qualités de combat. C'est vraiment, moi, je suis admiratif de cette jeunesse israélienne, à qui vraiment on doit dire chapeau, quoi, bravo, Kol HaKavod.
Eh bien,
Et on a besoin de
Kolakavod,
vous
ce
au long
sera
cours. Voilà. Shabbat shalom à vos auditeurs.
le message est passé. Merci beaucoup, David Onona. Nous, on
À
est
très
en édition
bientôt.
spéciale depuis 3 mois, donc je pense que nos auditeurs savent bien ce qui se passe sur le terrain et sont conscients et
Merci, merci en
prêts
tout cas.
à aider, et c'est toujours bien. David Onona, officier réserviste d'Antsal et directeur général du fonds Memories Foundation. Bon courage à vous, Shabbat shalom et merci.
Shabbat shalom depuis Israël, au revoir.
Neuf heures et 31 minutes sur Radio Judaïka, c'est l'heure du dernier rappel des titres.